Et ses potes, comme on dit, l'appellent, viens, sors avec nous. Et il est influencé par les gens qu'il fréquente. Quelqu'un qui vient d'une famille non religieuse, il fait tchouva. Pour qui tu te prends, regarde qui tu étais hier, etc. Machin, allez, machin, la religion, les rabbins. Ce show dédié pour la réussite des examens de Avraham Benjamin Ben Myriam Bezrat Hashem. Donc on parle maintenant ici de quelqu'un qui se rapproche de la Torah et il est gêné par rapport à ses copains parce qu'il ne fait plus les 400 coups comme eux. Alors quelle est la réaction qu'il doit avoir? Alors, c'est une question très difficile. Enfin, la réponse elle est facile, mais elle est, dans la pratique c'est difficile à mettre ça en pratique. Pourquoi? Maïmonide est dans le chapitre 6 de l'Hilchot Dehot. L'Hilchot Dehot, c'est donc dans le grand livre de Maïmonide, Mishneh Torah, et il a écrit, en particulier l'Hilchot Dehot, ça parle des lois, des opinions. Et là-bas, il parle de un peu tout ce qui est pas la halakha sèche, qu'est-ce qui est permis, interdit. Il parle des relations entre les gens, etc. Qu'est-ce qui est de ne pas haïr, de ne pas se venger, comment manger, comment vivre en bonne santé, etc. Et là-bas, au chapitre 6, il parle de la chose suivante. Il dit comme ça, il dit que l'homme est sociable. Et, de par sa nature, il est influencé par les gens qu'il fréquente. C'est vrai que le roi Salomon a dit qu'on doit fréquenter, il amène un verset, de fréquenter les sages, comme ça tu deviendras sage. Et si au contraire tu fréquentes les gens mauvais, tu deviendras mauvais. Et ça c'est très connu ici dans le monde de la yeshiva, on reçoit des gens qui, hier, étaient loin de la Torah et se rapprochent. Alors la personne vient ici, quelques mois ici, elle grandit, elle commence à perdre ses mauvaises habitudes, de pécher de tout ce qu'il faisait comme grosses bêtises ou petites bêtises avant. Et il grandit, il devient quelqu'un d'autre. Et après il repart pour les vacances, et ses potes, comme on dit, l'appellent, viens, sors avec nous. Et il retombe. Ou bien alors c'est les filles, ou bien c'est la fumette, ou bien c'est qu'est-ce que j'en sais, d'accord, c'est les gros mots, c'est tout ce que... Et très rapidement, hélas, très souvent, tout ce qu'il a appris ici, boum, part en cacahuète. Pourquoi? Parce que l'homme est sociable. Et il est influencé par les gens qu'il fréquente. Ce que je dis moi aux gens d'habitude, c'est quand tu rentres, alors tes copains veulent te voir couper. C'est pour ça que je dis que pratiquement, normalement, idéalement, tu aurais dit, écoute, je ne suis plus le même, arrête de m'embêter, j'ai d'autres copains maintenant. Voilà, tu fais une sélection, boum, tar. Fini, tu n'as plus ses copains. Mais bon, ça c'est très joli théoriquement, mais pratiquement, c'est presque impossible à faire. Alors moi, je vais conseiller aux gens, au lieu de sortir avec eux, oui, venez chez moi, je vous invite chez moi. Chez toi, ils ne vont pas fumer. Chez toi, ils n'ont pas amené des filles. Chez toi, c'est un peu différent, d'accord? Donc c'est un moyen de garder contact, mais au lieu que toi, tu tombes chez eux, peut-être tu les fais monter. D'accord? Forcément, il y aura une symbiose, ça veut dire eux, ils vont influencer sur toi, mais tu peux aussi influencer sur eux. Quand tu es chez toi, hein, tu peux plus facilement les influencer que lorsque tu vas avec eux dans les endroits de mauvaise fréquentation qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Et regardez à quel point c'est terrible. Maïmonide, bon, c'est pas un grand, fanatique, d'accord? C'est un homme, Maïmonide, même les goïms le reconnaissent comme un très grand humaniste, un monsieur très très grand. Alors lui, il dit, à quel point il faut faire attention de ne pas fréquenter des gens pas bien? Il dit que si on habite dans un pays où il n'y a pas des gens bien, il n'y a que des gens pas bien, il faut changer de pays. Pas rester dans le même pays. Et si... Tous les pays qu'on entend à leur propos, c'est des mauvais pays. Et il dit, comme à notre époque, il écrit ça il y a bientôt 1000 ans, d'accord? Aujourd'hui, c'est la puissance 1000, d'accord? Comme à notre époque, on peut aller dans aucun pays parce que tous c'est des pays mauvais, d'accord? Ou bien les bons pays, on ne peut pas y arriver parce qu'il y a des guerres, etc. C'est impraticable. Alors il dit, il faut rester chez soi. Et si tes copains sont des gens mauvais qui viennent, te disent, allez, fais pas le lourd, viens, t'es pas tranquille. Alors, il faut fuir la ville, aller habiter dans les grottes, dans le désert. Imaginez, qui peut aller habiter dans une grotte dans le désert? Il dit, c'est mieux plutôt que de sortir avec les potes et être influencé en mal dans leur comportement. Tellement l'homme, il est sensible aux copains. Donc, c'est clair que quelqu'un qui, à un certain temps, était loin de Torah et avait des copains loin de Torah, c'est conseillé qu'il s'éloigne d'eux. Et s'il ne peut pas, et je comprends qu'il ne peut pas, alors au moins faire en sorte que ce soit plus espacé et, comme j'ai dit, pas aller dans les endroits de leur camp, les amener dans le camp à nous. D'accord? Chez nous, c'est déjà mieux, tu reportes la kippa quand ils rentrent, tu comprends que tu es un peu changé, etc. Tu fais quelques livrets Torah, le type qui commence à parler de filles, il sera un peu mal à l'aise, tu comprends? Voilà, là, dans ce cadre-là, tu arrives à minimiser la casse. Et le mieux, c'est de faire après des copains dans le nouveau monde que tu commences à fréquenter. Pour pas devoir partir habiter dans les grottes, dans le désert. Voilà. Maintenant, on ne doit pas avoir honte. Le premier article du Shulchan Aruch, c'est qu'on n'a pas à avoir honte de pratiquer la Torah, que mieux vaut être appelé idiot toute sa vie par l'entourage plutôt qu'une seule fois fâché Hachem. Quelqu'un qui vient d'une famille non religieuse, il fait tchouva. Il devient la cible, la proie de sa famille. Il tombe dessus. Pour qui tu te prends, regarde qui tu étais hier, etc. Machin, allez, machin, la religion, les rabbins, c'est tout, c'est du chiquet. Bon, on a droit à tous les discours possibles et imaginables. Et c'est certain que ça touche. D'accord? Alors, il faut savoir que le Shulchan Aruch a prévu le coup. Le premier alinéa du Shulchan Aruch, il dit, mieux vaut être appelé idiot toute sa vie, par tout le monde, plutôt que de fâcher Hachem. Alors, le problème, c'est que quand les gens nous traitent d'idiots, on les entend ici. Quand Hachem te traite d'idiot, on ne t'entend pas. Donc, mais si tu entendais vraiment, il n'y aurait pas de discussion. Très, très gentil papa, maman, frère, cousin, machin, mais t'as Hachem qui me dit, je suis un triple idiot si je vous écoute. Alors, il faut se convaincre qu'effectivement Hachem dit cela. Et au contraire, celui qui se maîtrise et qui arrive à faire la volonté de Dieu alors que tout l'entourage est contre, il a un mérite énorme. C'est en cela que les balais de Tshuva, un bal de Tshuva, lieu où il se trouve, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Tzaddik parfait, c'est quoi tzaddik parfait? Il n'y en a jamais eu. Il y a eu quatre durant l'histoire. C'est pas Abraham, c'est pas Yitzhak, c'est pas Yaakov, c'est pas le premier homme, c'est pas Noé, c'est pas Moshe, c'est pas Aaron, c'est pas David. C'est pas Baba Salé, c'est pas le Hafetz Raïm, tout cela, non. Qui sont les quatre tzadikim qui n'ont jamais péché? C'est Ishaï, le père de David, Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, et Kilav, le fils de David. Les quatre qui n'ont jamais péché. Tout le reste ont péché. Maintenant, celui qui a péché, il a fait les 400 000 coups. Vous connaissez l'histoire de Yoshua Binoun? C'est une histoire archi-inconnue, extraordinaire. C'est une histoire, un midrash, qui est ramené dans l'introduction à un livre qui a écrit le fils du Gaon de Vilna. Là, présentement, j'ai oublié le nom du livre. Et il raconte l'histoire suivante. Il dit que Yoshua Binoun, donc Yoshua Binoun, il faut comprendre qui c'est. C'est le seul qui a pu succéder à Moshe Rabbeinu. Les enfants de Moshe Rabbeinu, Eliezer, Gershon, n'ont pas pris le flambeau de leur père et continué la voie de leur père. D'accord? Qui a pu, un illustre inconnu, Yoshua bin Nun, c'est qui celui-là? Ben lui, il était proche de Moshe Rabbeinu. C'est le seul qui a pu monter avec Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Et il s'est arrêté à un certain niveau. Et Moshe Rabbeinu est rentré dans le nuage, là-bas, dans la nuée, pour être avec Hachem pendant 40 jours. Mais c'est le seul qui pouvait monter sur les montagnes, il a campé là-bas. Qui est celui-là? Alors Nun, le nom du père, en araméen, signifie poisson. Pourquoi on l'appelle Josué, le fils du poisson? Alors, comme ça explique ce midrash, il dit que c'est un des enfants mâles qui a été jeté dans le Nil quand il est né. Et il a été repêché par des pêcheurs égyptiens. D'où le nom Yoshua bin Nun, fils du poisson. D'accord? Comme si son père était un poisson, donc on l'a retrouvé dans l'eau. Et on n'a pas dit qu'il était juif, et grandit dans la famille d'Osiris, d'accord, une grande famille égyptienne, et il est beau, grand et fort, et pour finir, quand il est devenu adulte, il est devenu le bourreau des Égyptiens. Et il a pendu des milliers de juifs, dont son propre père, assassin de son propre père. Et la coutume était à l'époque que l'assassin, donc le bourreau, pouvait aller après coucher avec la femme du type qui l'a tué. Donc il a tué son père, et il va voir une femme qui est sa mère. Et sa mère le reconnaît, il ressemble à la famille. Il avait une tache dans le dos, et elle vérifie, t'es mon fils. Elle lui raconte tout, il entend ça, le pauvre. Il fait une tchouva totale. Tchouva totale. Et il devient le second de Moshe Rabbeinu, au point tel que personne, dans tout Amisraël, les grandes saligines qu'il y avait, peut arriver à son niveau d'être le second de Moshe Rabbeinu, qui monte avec lui sur la montagne, et après, quand Moshe Rabbeinu est décédé, qui continue Yoshua. Alors, voyez, Yosef, il y a quelques années, il y a une vidéo. Presque jamais de sa vie, il est allé sur les tombes des Tzadikim. Une seule fois qu'on a failli être aveugle, il est parti à Tzfat pour une semaine, il a prié sur la tombe de Rabbi Yosef Karo, Maran, d'accord, et ben, au Hachem, il a guéri. Mais sur les ondes Tzadikim, jamais. Puis il y a une vidéo où il dit, je veux aller sur la tombe de Yoshua. Choua Binoun, sa tombe est à une demi-heure de route d'ici, au nord, dans un village arabe, Tel Hares, j'étais dans ma jeunesse, on peut encore aller dans ces villages, d'accord. Au milieu de la place, tu as la tombe de Yoshua Binoun. Il n'y a même pas de goudron là-bas, il n'y a même pas d'asphalte, d'accord. C'était tout de la boue, de la terre, d'accord. Il dit, je vais aller là-bas. Pour finir, il n'a pas été, mais il dit, mais comprenez qui c'est. Moshe Rabbeinu n'a pas sa tombe. Celui qui était à côté de Moshe Rabbeinu, Dieu lui parlait. C'est le numéro 2 de l'histoire du peuple juif. On peut aller sur sa tombe, c'est extraordinaire. Mais qui c'est à la base? Eichmann. Eichmann, qui a tué des millions de juifs dans la Shoah, tout coup un jour, sa mère lui dit, écoute mon cher ami, je te raconte, voilà, t'es juif. Ma grand-mère maternelle est juive, je me rencontre, tout ça, t'es juif. Ah, c'est vrai? Bon. Alors il vient à la synagogue, il tape à la porte, écoutez, je suis Eichmann, voilà, vraiment, je suis désolé pour ce qui s'est passé dans la guerre, bon, j'ai appris que je suis juif, je peux venir. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on lui règle un peu son compte de côté, puis après, si on est gentil, on le laisse rentrer à la dernière place, qui devienne le second du rabbin, qui devienne le rabbin, qui devienne le second de Moshe Rabbeinu, avant tout le monde. La grandeur de la tchouva. Combien est grand la tchouva? Quelqu'un qui était, hier, il a fait les 400 000 coups, il fait tchouva, il devient plus haut que les tzadikim les plus parfaits qu'il puisse y avoir. Le Zohar Kadosh dit que dans le Olam Haba, il y a différents mondes. Alors le quatrième monde, c'est celui des tzadikim. Le cinquième, celui des Balei Tchouva. Et il dit que les tzadikim ne peuvent pas mettre la tête, aller voir ce qui se passe dans le monde numéro 5. Ils restent bloqués dans le 4. Et dans le 5, tu as des voyous, des repris de justice, qu'est-ce que j'en sais moi, des tordus. Ou des bons juifs français qui ont fait les 4000 coups avec les bonnes femmes, les goyotes, les juifs, les machins, les téléphones tordus, etc. Et un jour, ils ont fait tchouva, ils ont des bons tzadikim. Ils sont dans le cinquième monde, que les tzadikim les plus parfaits. Tu prends le Rabbi Chaim Kanievski, une fois le Rabbi Steinman. C'est comment l'histoire hein? Ah ouais. Moi, je faisais des séminaires en France. Je partais énormément, d'accord, des dizaines de fois par année pour faire des séminaires. Puis, au bout d'un moment, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que les femmes au séminaire, elles ne viennent pas bien habillées. Et un juif religieux, je ne veux pas regarder une femme bien habillée. Je ne peux pas lui parler comme ça, d'accord, c'est impossible. Alors je fais de l'acrobatie pour essayer de lui parler sans voir, d'accord, mais au bout d'un moment, tu risques de tomber. Alors, tu vois, alors après 20 ans de pleurs chaque kippour et qu'on retombe après quelques mois, je vais aller voir le Rav Steinman, je lui dis je vais arrêter. Non, arrêter, ça veut dire que c'est des centaines de balais de chouva qui ne seraient pas balais de chouva. Je lui dis j'en peux plus, il m'a dit fais que pour les hommes. Même l'avion, d'accord, les hôtesses, les machins, tout ça, c'est impossible, je vais faire attention à mes yeux. 10 minutes, on a comme ça, on a discuté. À la fin, il m'a dit, même s'il y a un doute de danger pour ta spiritualité, n'y va pas. Victory, je sors vainqueur. Bahou Hachem. Et là, on a commencé l'histoire des séminaires. On a commencé les vidéos sur Internet. Ça coûte rien du tout. Un séminaire, ça coûtait 18 000 euros, ça nous coûtait. D'accord? Et tu avais 50 balais de chouva à la fin, et des efforts considérables, et une perte de sainteté des yeux terrible. Là, tu es dans le bureau, tu parles en classe, tu parles à quelle personne, ça coûte zéro, on met ça sur Internet, terminé, des milliers de gens qui font tchouva, Bahou Hachem. C'est mille fois mieux. Alors, Steinman, il a dû voir ça. Je crois que le même jour où je suis revenu du Rav Steinman, j'ai un copain qui m'appelle de Bnei Brak qui dit, écoute, tu sais, à propos de ta question là, pour les séminaires, tout ça, justement, j'ai un copain qui voulait rentrer dans le Kirou, commencer à parler aux gens, etc. Il s'est posé la question, est-ce qu'il peut maintenant parler à des femmes, tout ça. On t'a voir le Rav Steinman ensemble. Alors, Steinman lui a dit, oui, vas-y. Ouais, mais les filles, bon, tu feras attention, il lui a dit, fais attention, il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu sais, nous tous, on ira un peu en enfer. Un beaucoup, un peu. Le seul qui ira pas, c'est Rabbi Chaim Kanievski. Lui, il n'a aucun péché, il ira directement au paradis. Maintenant, on doit quand même préparer quelque chose après l'enfer. Donc va, bien qu'il y aura un peu d'enfer là-bas, au moins après, tu prépares un grand olam haba. D'accord? Tu as fait tchouva à des gens, etc. C'est une très grande mitzvah. Il m'appelle tout content que Bahou Hachem, donc, il me dit, donc tu peux y aller. Et écoute, je reviens de Rav Steinman, il m'a dit non. Donc on voit que Rav Steinman, d'après qui, quoi, comment, il décide. Pourquoi je raconte toute cette histoire-là? Pour la phrase qu'il a dit. Il a dit, nous tous, on ira un peu en enfer, à part Rav Chaim Kanievski. Lui, il est nickel, aucun péché. Rav Chaim Kanievski, il est dans le quatrième monde. Le Baal Tshuva qui a fait les 400 000 coups, il est dans le cinquième monde. Et El Chaim lui dit, laisse-moi aller voir un peu comment c'est là-haut. On lui dit, désolé mon cher ami. Il y a les flics du Olam Haba qui disent, non, trans, dehors. Mais je suis Rab Chaim. Hey, il y a ici, il y a, comment il s'appelle, Michel, Stéphane, d'accord, Jennifer, ils sont au cinquième monde, ils ont fait Tshuva. Inimaginable, inimaginable. Pourquoi? Parce que faire Tshuva, ça nécessite des efforts énormes. D'abord contre soi-même, parce que ta Yessara, tu es habitué à tout ça, il faut changer, c'est très dur. Et l'entourage. Spécialement l'entourage. La famille, les copains, tout ça, ils te tombent dessus. Et tu tiens bon. En fonction de l'effort, comme ça est le mérite. Donc tu souffres, tu reçois du mérite. Donc ça fait partie du lot du Baal Tshuva, il faut savoir, mais combien ça vaut? Combien ça vaut? Combien? Le Rabbi Sonoba Shaoul, une fois, il sort d'un... Il y avait une fête, ok, il sort, il attend le bus. À Périon, ça, il y avait un temps, une salle, à Périon. Et un Baal Tshuva, depuis un an, il a fait Tshuva, il vient le voir, il dit, Kvod Arav, je ne suis pas bien, je suis triste. Tous mes copains, ils sont en train, ils font des études, et ils s'éclatent, et moi je suis à l'Eshiva, c'est dur pour moi, etc. Rabbi Sonoba dit, mais tu es un Baal Tshuva? Tu te rends compte, tu sais ce qu'ils font tes copains, ils sont en train de creuser leur tombe, leur enfer. Et toi, tu étudies la Torah d'Hachem. Mais moi, à ta place, j'aurais dansé non-stop toute la journée. Nach, 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 nachman. Il n'a pas dit nachman, mais ouman, d'accord, mais... j'aurais dansé toute la journée, tellement tu dois être heureux. Vous comprenez que c'est quel grand cadeau quelqu'un il a de pouvoir faire tshuva, c'est tellement énorme. Mais il n'y a pas de cadeau gratuit. Il faut oublier ça, ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a rien qui est gratuit, jamais. Dieu a créé ce monde-là où, grâce aux efforts que tu fais, tu reçois. Tu as fait des efforts, tu reçois. Tu n'as pas fait d'efforts, tu ne reçois pas. Celui qui a bossé avant Shabbat, il mangera à Shabbat. Celui qui n'a pas bossé à Shabbat, qu'est-ce qu'il mangera à Shabbat? Comme disent nos sages de mémoire bénie. Donc ça fait partie du lot, il faut se battre. Et une partie des grandes batailles, c'est rester insensible à l'influence négative, mortelle, mortelle, des amis qui ne veulent pas notre bien. Il y a 24 personnes, c'est marqué, ils n'ont pas parole à Mabah. D'après le Rambam, ils vont en enfer, ils ne sortent jamais de l'enfer. La Kabbalah dit qu'à la fin, ils sortiront quand même pour se réunir avec Hachem vu qu'ils sont juifs. Une des 24 choses qu'il y a là-bas, c'est celui qui fait pécher des gens, le public. Alors si c'est 1 à 1, ce n'est pas écrit là-bas. C'est vrai que c'est très grave aussi, inciter au mal, d'accord? Mais inciter un public ou empêcher des gens de faire des mitzvot. Par exemple, il y a un groupe ici à l'échiva, il dit, allez, viens, on va étudier un peu. Non, c'est fatigant, viens, on va aller à, dans un quartier mal famé, là-bas, Machne Yehuda, quelque chose comme ça, on va manger une pizza, voir un peu qu'est-ce qui se passe, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Que des bonnes femmes pas bien habillées, d'accord? Alors à cause de lui, le groupe maintenant il est parti. T'as incité un public à faire le mal. Terrible, terrible, terrible. Et dans l'autre sens, t'as incité maintenant un public à faire le bien. Ben, tu prends un mérite énorme. Alors que Dieu nous aide à toujours choisir le bon côté, pas le mauvais, et éviter les mauvaises influences. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.